Le journal, présenté par Adrien Taufolet.
Bonsoir. En Autriche, l'extrême droite officialise son entrée au gouvernement, fruit de son alliance avec le leader conservateur Sébastien Kurz. Le FPÖ récupère des portefeuilles régaliens, affaires étrangères, intérieures et défense. Précision à suivre de notre correspondante à Vienne, Isorias. De nouvelles déchéances de nationalité aux Pays-Bas. Deux frères binationaux condamnés pour terrorisme sont visés par cette mesure. Dispositif très simple à appliquer, nous expliquera Lakshmi Lotha. François Bayrou en congrès du Modem ce week-end. Son parti et La République En Marche sont complémentaires. Voici en tout cas le message affiché, vous l'entendrez dans un instant. Et puis les avancées de l'enquête sur la collision du bus de Millas, conférence de presse du procureur de Marseille tout à l'heure, qui précise la version des faits donnée par la conductrice. Ils se sont donné rendez-vous sur le mont du Kahlenberg à Vienne et ce n'est pas un hasard. La droite et l'extrême droite autrichienne ont choisi ce lieu pour dévoiler la composition de leur coalition de gouvernement. C'est précisément là qu'en 1683 débuta la reconquête par la Sainte Ligue, la coalition menée par le Saint-Empire romain germanique des territoires occupés par les Ottomans. Tout un symbole pour cette alliance entre Wundervusi, l'enfant prodige conservateur Sébastien Kurz, et le chef du FPÖ, Heinz-Christian Strache, l'extrême droite qui fait donc son retour avec des portefeuilles majeurs à Vienne, la correspondance d'Isorias.
Le parti conservateur, le VP, obtient 8 ministères, le FPÖ 6. Mais le parti d'extrême droite a de quoi se réjouir. Il obtient en effet des ministères d'importance, notamment l'intérieur, la défense et les affaires étrangères. Ce qui veut dire qu'il dirigera à la fois les militaires, les services secrets et la police. Une concentration des pouvoirs régaliens qui inquiète d'ores et déjà l'opposition. Le porte-parole des Verts dénonce un gouvernement qui ouvre la voie à un état de surveillance. L'opposition qui regrette également la nomination de certaines personnalités, notamment Herbert Kickl, futur ministre de l'Intérieur, connu pour avoir été la plume de Jörg Haider, l'ex-chef sulfureux du FPÖ, aujourd'hui décédé. Les conservateurs, eux, obtiennent les ministères de l'Économie, des Finances, de la Justice ou encore de l'Éducation. Mais fait important, Sébastien Kurz, le futur chancelier, a exigé que les questions européennes lui reviennent. Il faut dire que l'Europe est sans doute le point de discorde entre les deux partis. Le FPÖ souhaitant se rapprocher du groupe des eurosceptiques de Visegrad, le VP étant clairement pro-européen, d'autant que l'Autriche présidera le Conseil de l'Union européenne à compter de juillet prochain.
Isorias et le futur gouvernement sera investi lundi. Ce même jour, 6 manifestations sont d'ores et déjà prévues à Vienne pour protester contre ce nouveau gouvernement. Ce n'est pas une première aux Pays-Bas, mais la disposition en contexte permanent de menaces terroristes a toujours de quoi surprendre. Le ministre de la Justice et de la Sécurité a décidé de retirer leur nationalité à deux hommes, deux frères néerlandais condamnés pour crimes terroristes et résidant actuellement librement près de Rotterdam. Cette semaine, François Hollande exprimait ses regrets concernant sa proposition polémique d'inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution française quand il était au pouvoir. Mais aux Pays-Bas, la question ne se pose même pas. Plusieurs dispositions du droit depuis plusieurs années le permettent très facilement. Éclairage depuis Bruxelles de Lakshmi Lotha.
Aux Pays-Bas, une loi permet depuis 2010 la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme. Les deux personnes concernées sont deux frères sous le coup d'une condamnation et actuellement en liberté dans la région de Rotterdam, selon un porte-parole du ministère de la Justice. Il n'y a pas de menace particulière les concernant en ce moment, précise-t-il, mais le ministre estime que les personnes ayant une double nationalité et qui commettent ce genre de crime doivent perdre la nationalité néerlandaise, explique-t-il. Les deux frères disposent d'un délai de 4 semaines pour faire appel de cette décision. Cette loi ne peut s'appliquer qu'aux personnes disposant d'une double nationalité, car sinon la mesure les rendrait apatrides. C'est la deuxième fois seulement qu'elle est mise en œuvre. Une autre loi, votée en mai dernier, permet au gouvernement de déchoir de leur nationalité des ressortissants partis se battre en Syrie. Objectif, les empêcher de rentrer aux Pays-Bas. 4 personnes se sont ainsi vues retirer leur nationalité néerlandaise en septembre dernier.
Lakshmi Lotha, en Tunisie, elles se font attendre. Les premières élections municipales post-révolution de 2011, elles devaient avoir lieu ce mois-ci. Repoussées au 25 mars 2018, il y a quelques semaines, l'instance chargée d'organiser le scrutin vient de décaler encore une fois l'élection au 6 mai 2018. Et cela demande des principaux partis politiques afin, explique-t-il, de préparer au mieux ce scrutin qui doit consolider la transition démocratique au niveau local. Il était bien silencieux depuis son départ du premier gouvernement d'Édouard Philippe. François Bayrou, tout fraîchement réélu hier à la tête du Modem, a lancé le congrès de son parti aujourd'hui qui fête ses 10 ans. Il faut dire que face au rouleau compresseur, l'hégémonique La République En Marche, difficile d'exister. Mais le président du Modem, épaulé pour l'occasion ce week-end par Édouard Philippe et 5 membres du gouvernement, compte bien montrer que sa formation a toute sa place au cœur de la majorité. Les deux partis sont complémentaires, selon lui. On l'écoute.
Cette complémentarité entre En Marche et le Modem, c'est une donnée essentielle, précieuse, de l'avenir, des années qui vont s'ouvrir pour la politique française. Et comme je défendais l'unité à l'intérieur de notre famille, je veux défendre devant vous l'unité de la majorité. Je suis pour que la majorité constitue une maison commune. Que se bâtisse une organisation qui nous permettra tous ensemble de préparer les échéances électorales qui viennent, les européennes, les municipales. Et donc, c'est avec cette volonté-là de construire l'unité que ce congrès est organisé. Et je veux vous dire que j'ai reçu ce matin tôt un message d'Alain Juppé pour vous le transmettre, pour vous dire son amitié et ses vœux pour le congrès du Mouvement démocrate.
Voilà, François Bayrou au micro d'Aurélien Colli. Il aura fallu plus de 6 mois de travail. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a épluché les déclarations de patrimoine du gouvernement. Une obligation pour les ministres et les secrétaires d'État. Et cela, si cela a été si long, c'est peut-être parce que certains ont rempli des pages et des pages de documents. Sur 32 ministres et secrétaires d'État, une douzaine sont millionnaires et possèdent de nombreux biens, immobiliers, véhicules. En tête de liste, on retrouve Muriel Pénicaud, ministre du Travail, ex-dirigeante de Dassault Systèmes, de Danone ou encore de Business France, patrimoine évalué à 7,5 millions d'euros, mais elle est suivie de très près par Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, fort de son passé télévisé, avec 7,2 millions d'euros, ce qui n'est pas sans provoquer un certain étonnement à la lecture du détail, Béatrice Duguay.
Au-delà de la simple somme déclarée, ce sont peut-être quelques biens matériels symboliques qui pourront surprendre le grand public. Un bateau, une moto et 6 voitures pour le ministre de la Transition écologique, dont une vieille Land Rover et une vieille Peugeot, mais aussi une hybride quand même, et puis un scooter électrique. Patrimoine immobilier également, maison de bonne surface en Corse, en Bretagne, en Haute-Savoie, des biens de famille pour certains et pas forcément détenus en totalité. Nicolas Hulot est encore riche de sa société Eol, dont il détient 99% du capital. Il en est l'unique salarié, société qui encaisse ses droits d'auteur sur les multiples reportages et documentaires réalisés, ainsi que les royalties des produits dérivés de la marque Ushuaïa. En entrant au gouvernement, il a abandonné la gérance d'Eol et l'a transformée en société à actions simplifiées. Il en reste le propriétaire.
Béatrice Duguay, les premiers éléments de l'enquête sur l'accident de Mias, cette collision entre un bus scolaire et un TER qui a fait 5 morts et 15 blessés jeudi, en pleine polémique sur la position de la barrière de sécurité du passage à niveau. Était-elle ouverte ou fermée? La responsabilité de la conductrice du bus ou de la SNCF n'est pas encore établie. Le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux, s'est exprimé tout à l'heure. La conductrice a assuré aux enquêteurs que la barrière était bien levée, Frédéric Bourgade.
Effectivement, les gendarmes ont pu entendre la conductrice du bus qui est actuellement à l'hôpital, mais comme l'a expliqué le procureur en charge de l'affaire, elle est choquée, elle est mère de famille et il faut donc rester prudent sur ses déclarations. La conductrice du bus maintient cependant sa version, c'est-à-dire celle des barrières levées au moment où elle a engagé son bus sur le passage à niveau. Selon son tachygraphe, au moment du choc, son bus roulait à 12 km/h. Le procureur a expliqué que prochainement, un drone sera utilisé pour reconstituer le moment précis de la collision. Un drone survolera donc la voie ferrée à hauteur de cabine du bus pour dire ce que la conductrice était ou pas en état de voir précisément au moment du choc. En tout cas, le mécanisme de la barrière était, selon les constatations faites, en position baissée, ce qui signifie très concrètement fermée au moment de l'accident. Mais cela ne préjuge pas des conclusions de l'enquête, a encore précisé le procureur en charge de l'affaire.
Frédéric Bourgade, et les obsèques des victimes auront lieu lundi et jeudi. Un rassemblement silencieux sera organisé demain à 11h30 devant la mairie de Saint-Féliu-d'Aval, d'où étaient originaires les passagers. Et puis ce rassemblement en soutien aux migrants, plus de 500 personnes selon la police, rassemblées cet après-midi à Menton dans les Alpes-Maritimes. Ils réclament l'ouverture des frontières et dénoncent une chasse aux migrants qui s'opère dans ce secteur frontalier avec l'Italie. Selon les autorités préfectorales, pas moins de 50 000 personnes en situation irrégulière y auront été interpellées dont la quasi-totalité reconduite en Italie. Les prévisions de Météo France pour demain, du soleil autour de la Méditerranée, 30 d'entrée nuageux ailleurs, les températures moyennes de 7 à 11 degrés sur le tiers ouest et la bordure méditerranéenne est de 2 à 7 degrés sur le reste du pays.